En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Comment le cinéma représente-t-il la réduction du temps de travail ? La loi sur les 35 heures aurait-elle été mal interprétée ? Comment l'œil de la subordination est-il vu dans l'œil de la caméra ? Autant de questions auxquelles Marie-France Mazard, conseiller doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, a tenté de répondre lors de la deuxième rencontre droit et cinéma regard croisé. Rencontre organisée par la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, en partenariat avec le Festival international du film de La Rochelle, le Centre Intermonde et l'Espace Culture de l'Université de La Rochelle. Elle a réuni une seconde fois les 28 et 29 juin 2009 les universitaires et le Festival local de cinéma autour du thème du travail. Sujet d'actualité, il constitue le fil conducteur des échanges de ces deux journées en s'appuyant sur la projection de trois films. Canal Académie vous retransmet ce colloque en trois parties. Vous allez écouter la dernière intervention que nous vous proposons lors de cette rencontre. Il s'agit de Marie-France Mazard, conseiller doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Elle a choisi comme sujet le lien de subordination dans l'œil de la caméra pour débattre sur le thème du travail. Elle revient dans un premier temps sur la définition de la réduction du temps de travail jusqu'aux 35 heures, avant de s'attarder sur la subordination dans le contrat de travail qui n'est pas quelque chose de défini aux yeux de la loi. Elle prend pour exemple l'émission de L'île de la Tentation pour illustrer son propos. Tout de suite, retrouvez Marie-France Mazard.
Le thème qui m'a été donné est le lien de subordination dans l'œil de la caméra. Alors, il est vrai que nous venons de voir la projection de ce film « Ressources humaines » et il est vrai que le lien de subordination, dès le début du film, nous envahit, l'image le montre, le lien de subordination dans tous ses aspects. Et dès le départ, première scène, on sent la difficulté, la lourdeur de ce que va être un entretien avec le patron. Un entretien avec le patron, l'ouvrier sait que c'est lourd de conséquences, il n'a pas l'habitude, donc il dit à son fils, fais attention, prépare-toi. Et il y a aussi, dès le départ, quand on entre dans l'usine, toutes les catégories professionnelles et la hiérarchie qui est là, présente dès l'entrée dans l'usine, puisqu'il va être interdit au père de montrer à son fils sa machine, alors qu'il se faisait une joie de lui montrer sa machine. Dès le départ aussi, on voit les costumes sont différents, les cadres sont en chemise-cravate, les contremaîtres des blouses, les ouvriers des blouses, et les catégories professionnelles sont exactement celles que nous trouvons dans les conventions collectives. Toutes les conventions collectives professionnelles distinguent les cadres dirigeants, les cadres, et puis les agents de maîtrise, qu'on appelle des ETAM, et les ouvriers employés. Et dans le film, on voit très bien comment fonctionnent ces catégories professionnelles qui sont étanches. On voit très bien que pour passer de l'une à l'autre, ça va être difficile, et sortir de sa condition d'ouvrier également, c'est quelque chose qui semble impossible. Et on le sent complètement quand on voit comment le discours final du dialogue du père et du fils, où le fils est là, j'attends avec intérêt votre analyse de cette phase du film qui me semble la plus difficile à comprendre, quand le fils dit à son père qu'il a la honte, qu'il lui a donné la honte d'être le fils d'un ouvrier. Et effectivement, on sent quelque chose à la fois de vrai, de problématique, et on se dit, eh bien, on est au 21e siècle, et on entend encore ce type de phrase. Et donc les catégories professionnelles existent toujours bel et bien, et ce que vous avez vu dans le film, eh bien la chambre sociale a l'habitude de pratiquer ces différentes catégories professionnelles et de classer, les salariés sont classés dans les catégories professionnelles, et s'ils peuvent revendiquer d'appartenir à une autre catégorie que la leur, il leur faudra prouver que leurs tâches correspondent à une autre catégorie. Je regarde Philippe qui m'approuve et qui sait que c'est une de nos problématiques. Donc, hiérarchie et des classes professionnelles, des catégories professionnelles qui sont étanches. Pour en sortir, eh bien, c'est la formation, l'éducation, et on voit que le fils d'ouvrier, pour ne pas être ouvrier, il doit aller à Paris faire des études, et que ses parents doivent se sacrifier pour lui payer des études. C'est une sociologie et qui correspond encore maintenant à la vie en usine. Alors, je passerai assez vite parce que je crois que c'est quelque chose de bien connu. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce film, c'est de vous parler des 35 heures, parce que c'est le sujet central du film, et la loi sur les 35 heures a été mal comprise, mal expliquée, mal connu, et ce film le montre, mais d'une façon extraordinairement vraie. Pourquoi ? Parce que les 35 heures, qu'est-ce que c'était ? L'idée de fond, c'était travailler moins, hein, pour partager le travail. L'idée était que si on réduisait le temps de travail, il y aurait des embauches. Et c'était une idée généreuse, et se greffait également sur cette idée de travailler moins l'idée qu'on pouvait aménager le temps de travail et faire du travail un temps choisi. Et donc aménager le temps de travail, c'est-à-dire, comme l'explique très bien le jeune stagiaire quand il va aider les salariés à remplir le questionnaire, c'est de décider de travailler plus à certaines semaines, plus le soir, plus le matin, choisir son temps de travail. Et ça, c'était une idée qui existait déjà depuis 1982. Les premières lois qui permettait un aménagement du temps de travail, il date quand même de 1982. Et l'annualisation du temps de travail était déjà dans certaines conventions collectives, et la loi sur les 35 heures a donné un essor à ces méthodes de répartition du temps de travail. Alors, on va venir un petit peu à l'histoire, ça va vous faire plaisir. Il faut se rappeler que c'est en 1936 qu'on a le premier texte qui fixe la durée du travail hebdomadaire. Et pourquoi ? Parce que on accorde des congés payés. C'est la loi sur les congés payés et la durée du travail qui est le travail se fait selon un horaire collectif. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde se repose ensemble. Et c'était l'idée de départ. Et c'était utile, je suppose, peut-être que vous nous expliquerez un peu mieux la finalité, mais je crois que c'était... On a fonctionné comme ça, on peut le dire, jusqu'en 1982, où on a commencé à dire on peut peut-être fonctionner autrement que par un horaire collectif où on travaille tous ensemble et on se repose tous ensemble. Alors, où on en est maintenant, les accords de réduction du temps de travail et d'aménagement, de réduction et d'aménagement du temps de travail, ont été signés dans les entreprises, et ça a été la volonté du législateur de dire que tout cela devait se faire dans l'entreprise, par accord d'entreprise et pas par accord de branche. Il y a eu des accords de branche, mais devait être confirmé par des accords d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu que les salariés eux-mêmes, qui étaient concernés par ces aménagements et la réduction du temps de travail participent à l'élaboration et décident de leur temps de travail, de leur durée du travail et de leur temps de travail. Et je reviens donc au film parce qu'il est exactement ce qui s'est passé. Il a fallu négocier. Et avec qui négocier ? Et c'est là qu'on a pris conscience qu'il fallait des représentants syndicaux dans chaque entreprise. Et ça n'était pas le cas partout. Dans l'entreprise de ressources humaines, on a 3 syndicats de salariés, si vous avez bien vu. On ne voit pas d'ailleurs le syndicat des cadres, curieusement. On voit 3 syndicats de salariés. Et là, il y a une représentation syndicale avec la déléguée syndicale qui est dans le film un personnage absolument extraordinaire, qui n'est pas caricatural comme on pourrait le penser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de délégués CGT qui ressemblent à cette dame. Et les dialogues ont été, me semble-t-il, pris dans le vrai. Il y a énormément de phrases et de vérités dans le discours de la déléguée syndicale CGT. Et alors, attitude des patrons et attitude des salariés dans la négociation des accords de réduction du temps de travail, eh bien, il s'est passé exactement ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que, s'apercevant que les négociations étaient difficiles, les employeurs ont été tentés de faire des référendums, comme c'était le cas dans le film. Et ce que je trouve passionnant dans ce film, c'est qu'on s'aperçoit que les salariés, indépendamment des syndicats, sont, semble-t-il, incapables de s'exprimer face au patron, et qu'il leur faut le passage par la représentation syndicale, parce qu'ils ne savent plus, ils ont tellement l'habitude d'être soumis aux décisions patronales et à les respecter, qu'ils n'imaginent même pas pouvoir eux-mêmes faire changer les choses et exprimer autre chose. Et on le voit très très bien dans le film, puisqu'on voit que pour remplir les questionnaires, déjà le directeur des ressources humaines, quand il prépare le questionnaire, il essaye de simplifier les questions pour que les réponses soient efficaces. Et on voit quand même que la plupart des salariés qui sont consultés et qui doivent remplir ce questionnaire se trouvent dans l'incapacité d'y répondre parce que, à la limite, ils n'avaient jamais réfléchi à la possibilité de répartir autrement leur temps de travail et à prendre des loisirs indépendamment de ce qu'ils faisaient jusque-là. Donc, très intéressant au niveau de l'expression des salariés face au patron. Et je crois que les accords de réduction du temps de travail qui ont été signés dans les années 2000, puisque le film se situe en 1999 vraisemblablement, parce que la première loi Aubry est de 1998 et la deuxième de 2000. Et l'obligation de négocier qui était faite, entrée en vigueur dès 1998. On a eu les premiers accords en 1999 et d'autres en 2000. Et je ne sais plus le nombre d'accords, mais c'est assez faramineux. Il y a un nombre d'accords. Et donc, pour en revenir à la représentativité syndicale, ces accords ont fait la démonstration de la nécessité de modifier en France le système de la représentation syndicale. Parce qu'on a pu constater à cette occasion que certains syndicats qui avaient négocié les accords de réduction du temps de travail n'étaient pas du tout représentatifs dans l'entreprise. D'où le texte de la loi du 20 août 2008 qui a modifié les règles de la représentativité syndicale et qui ouvre plus largement le paysage syndical et ne le limite pas aux syndicats affiliés aux grandes confédérations que vous connaissez. Et donc, il faudra qu'un syndicat qui qui représente certaines valeurs républicaines, qui est représentatif sur le plan géographique, etc. Il y a 5 critères, dont le dernier est la nécessité d'obtenir 10% des voix aux élections professionnelles. Donc, les syndicats actuels affiliés se font beaucoup de soucis sur les futures élections, parce que la plupart des salariés ne vont même pas voter aux élections professionnelles. Donc, il y a actuellement une grande interrogation sur les effets de cette nouvelle loi sur la représentativité syndicale. Alors, en même temps, on sent une grande nécessité d'amener les salariés à se syndiquer, parce qu'il faut qu'ils s'expriment, et en même temps, on voit une difficulté à ce que les gens se syndiquent, parce que, eh bien, évidemment, dans l'entreprise, ça représente des conséquences. Voilà, alors je ne vais peut-être pas vous assommer avec les nouvelles lois, sauf pour vous dire qu'en ce qui concerne les 35 heures, de l'eau a coulé sous les ponts, puisque maintenant, ça n'est plus travailler moins pour partager le travail, mais c'est travailler plus pour gagner plus. Et que des lois nouvelles ont favorisé l'accomplissement par les salariés d'heures supplémentaires. Et vous avez vu qu'on exonère de cotisations sociales et de fiscalité les heures supplémentaires. Et que, dernière loi, on permet aux salariés de racheter leur RTT, c'est-à-dire... Je donne une petite clé sur ce que c'est que les jours de RTT. Les jours de RTT, ce sont des jours de repos qui compensent la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures. Pour éviter que les patrons aient eu à payer plus, on a décidé de rémunérer la différence entre 39 heures et 35 heures en accordant des jours de congé. Donc, en fait, les jours de congé, c'est de la rémunération. Ça n'est pas du repos. Et maintenant, dans les catégories que nous avons, le vocabulaire ne correspond plus à grand-chose, puisque le repos, c'est de la rémunération. On fait de l'épargne-temps. On peut vous dire qu'on utilise des notions... nous paraissent totalement éclatées. Comment on épargne du temps, il y a un compte épargne-temps, le repos rémunérateur, mais il faut le distinguer du repos reposant. On est tenu pas aussi par la législation européenne, la fameuse directive de 1993, qui heureusement est là. Et qui oblige un repos journalier. Si je me souviens bien, c'est 11 heures obligatoires consécutives de repos journalier. Et là, l'employeur ne peut pas faire travailler hors de ce temps extrêmement réglementé, directive européenne. Et nos cadres ne pourront pas, nos conventions collectives, nos lois, nos décrets ne pourront pas déroger à cette obligation de repos, nécessaire à la santé. Alors, je passe sur ces questions peut-être qui sont, et je viens, effectivement, je voulais vous parler de la subordination dans la définition du contrat de travail, parce que c'est une des questions qui a agité la Chambre sociale, vous l'avez su dans les médias, à propos de l'affaire de l'île de la Tentation. Et là, c'est vrai que il nous a été donné de réfléchir de façon approfondie sur ce que c'était que travailler et ce qu'était un contrat de travail. Et pourquoi ? Parce que, très rapidement, dans l'île de la Tentation, vous connaissez le principe de ces émissions de télé-réalité. Vous avez des couples qui sont recrutés pour cette émission, et je crois 3 ou 4 couples, peut-être 4, et des tentateurs. Et il s'agit pour les couples de tester leurs sentiments, leur fidélité, et les tentateurs sont là pour les tenter. Et on fait ce tournage en, je crois, 14 jours. Dans un lieu paradisiaque, je crois que c'est soit Thaïlande, soit le Mexique, et donc on va les filmer dans des activités sportives, faire de la voile, faire du jogging, nager, voilà. Les maillots de bain fournis par la production sont absolument superbes, les tentateurs et les tentatrices sont de toute beauté. Et donc, ce tournage qui se fait sur 14 jours amène ces gens-là à effectivement être disponibles quasiment 24 heures sur 24, parce qu'ils peuvent aussi être filmés la nuit. Hein. Et donc, le soir, il y a des feux de camp et auxquels les intéressés doivent participer. Et entre-temps, il y a des interviews de chacun pour leur demander où en sont-ils, voilà, et tout ça étant filmé et servant à fabriquer l'émission que vous avez peut-être vue. Alors, problématique, est-ce que c'est les couples et les tentateurs étaient des salariés au sens du droit du travail, et donc le Conseil des Prud'hommes, dans l'affaire que nous avions, avait répondu oui, et la Cour d'appel avait répondu oui, et la Cour de cassation était saisie d'un pourvoi de la filiale de TF1 qui produit cette émission. Et en deux mots, je vous dis ce que c'est qu'un moyen de cassation. Un moyen de cassation, c'est très technique, c'est une question juridique qui est posée à la Cour de cassation et à laquelle elle doit répondre. Et en général, elle doit répondre à tous les moyens qui lui sont soumis. Et dans cette affaire, la filiale de TF1 posait la question à la Cour de cassation, et c'est là toute la difficulté de cette affaire technique, posait la question en 3 parties. Première question, l'activité n'était pas une activité professionnelle. Ça ne pouvait pas être du travail, parce que aller nager, plonger, s'amuser, faire l'amour avec son compagnon, être tenté, ça ne pouvait pas être du travail. Donc, premier moyen, voilà. Deuxième moyen, il n'y avait pas de rémunération. Et troisième moyen, il n'y avait pas de subordination. Il n'y avait pas de subordination dans ce contrat, parce que... bon, voilà. Alors, je dois vous dire que le moyen sur la subordination ne nous a pas posé trop de questions, étant donné que les intéressés étaient complètement subordonnés, dans la mesure où on leur retirait leur passeport, interdiction de téléphoner à leur famille, et ils devaient être... à 8h à tel endroit, à 9h à tel endroit, et il y avait également un pouvoir de sanction, c'est-à-dire que s'ils ne satisfaisaient pas à ce que demandait la production, ils pouvaient être renvoyés. Et il y avait même une amende prévue, si je me souviens bien, de 15 000 euros s'ils ne respectaient pas les consignes qui leur étaient données. Donc, la subordination dans cette affaire ne faisait pas de doute. On n'a pas eu, sur le plan technique, une difficulté. La vraie question était celle de la prestation de travail. Qu'est-ce qu'une prestation de travail? Et ça, je dois vous dire que c'est ce qui a fait le plus de difficulté et de débat, et ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation n'avait jamais réellement dit ce que c'était que travailler. La définition du contrat de travail, c'est la prestation dans un lien de subordination, le lien de subordination consistant à être soumis à des directives, être contrôlé dans ces directives et l'employeur ayant un pouvoir de sanction. Et la prestation elle-même n'a jamais été définie. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas quand même définir la prestation de travail ? Qu'est-ce que c'est que travailler ? Et d'où une réflexion que nous avons eue très approfondie, en partant justement de l'histoire, et d'ailleurs dans le mémoire de l'avocat au conseil qui défendait la filiale de TF1, il y avait une partie historique sur la définition du travail en droit romain. Et donc, l'idée, c'était que le travail devait être pénible, que le travail devait être souffrance. Ce que nous avons vu dans l'île nue. Et bon, c'est vrai que notre culture, et on peut, je crois qu'il faut remonter à la Bible pour comprendre qu'on est imprégné de cette idée que le travail doit être souffrance et que ça doit être pénible et que ça doit être une prestation qui se définit de cette façon. Voilà. Alors, est-ce qu'on devait définir l'activité professionnelle ? Eh bien, la solution que nous avons prise, c'est de ne pas répondre séparément à ce moyen de cassation et à s'en tenir à ce qu'on a toujours dit pour toutes les autres activités, c'est-à-dire qu'on dit, bon, il y a une prestation, c'est certain, une prestation qui consiste à fournir son corps, finalement. Parce que qu'est-ce que c'est que le travail si c'est pas fournir son corps, d'une certaine façon. Pas sa pensée, parce qu'on peut jamais soumettre sa pensée à la subordination d'un employeur. Mais on fournit son corps. Et donc, on peut rien dire d'autre. Je prendrai juste un petit exemple. C'est l'exemple du laboratoire qui veut tester un médicament pour le sommeil, par exemple. Il va embaucher une personne pour absorber ce médicament, plusieurs personnes d'ailleurs, bon, une prendra un placebo, et plusieurs personnes pour dormir, pour tester ce médicament. Est-ce que ces gens-là sont des salariés ? Pas. En fait, ils dorment. Donc l'activité n'est pas une activité à des fins professionnelles. Parce qu'on nous disait aussi il faut qu'il y ait des fins professionnelles. Mais est-ce qu'on doit tenir compte du mobile de la personne qui vient ? Est-ce qu'elle vient pour travailler ? Ou est-ce qu'elle vient pour s'amuser ? Nous savons tous que le travail a un aspect peut-être quelquefois ludique, mais aussi intéressant. Je reviens au film pour vous montrer que le père, eh bien, quand il est dans son usine devant sa presse, il travaille. Et quand il est dans ses loisirs et qu'il est sur sa machine en train de faire un meuble, eh bien, si cette activité était sous la subordination d'un employeur, eh bien, ce serait du travail. Et la même activité, selon la façon dont elle est exercée, peut être un travail ou ne pas être un travail. Et ça a été une des réflexions, une des conséquences importantes de cet arrêt que la Chambre sociale vient de rendre. Et donc, ce qui paraît très très intéressant, c'est que finalement, la définition que la Chambre sociale fait du contrat de travail depuis des années, parce qu'on trouvait le premier arrêt en 1931, eh bien, cette définition fonctionne encore en 2001 pour des activités qui auraient fait sauter nos prédécesseurs à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Voilà. Alors, je passe à une autre question que je voulais... juste un petit mot pour vous dire que ce qui paraît aussi intéressant et ce que moi j'avais mal vu à la première visite, la vision du film, c'est que le patron lui-même, il est sous la subordination. Et je vais vous le... On dit que cette entreprise semble être une filiale d'un groupe, Et le patron n'est pas maître chez lui, puisque on voit arriver les investisseurs qui, avec lesquels il y a une réunion, et on pense que les décisions de licenciement, elles n'ont pas été prises à son niveau, elles ont été prises au niveau des investisseurs. Et c'est la problématique actuelle des licenciements économiques est celle-là, et nous avons un rôle important à jouer en ce moment, en 2009, parce que la cause économique du licenciement, la loi nous oblige à regarder si les difficultés économiques touchent non seulement l'entreprise, mais le secteur d'activité du groupe de l'entreprise. Et donc, dans l'affaire ressources humaines, la Chambre sociale serait allée voir les filiales du groupe qui participaient à la même activité pour voir si les licenciements étaient justifiés au regard des activités du secteur d'activité du groupe concerné. Donc le patron est lui aussi subordonné et il n'est pas le décideur en 2009, peut-être même auparavant. Dernière chose, je voulais vous signaler, parce que je voulais en parler, mais j'ai un peu débordé. Je voulais vous parler des cadences de travail. Et à propos des cadences de travail, quand on voit les machines dans le local de l'usine, on voit les ouvriers et les cadences qui sont difficiles. Et à ce propos, je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle Atelier 62, qui est un livre qui est écrit par la fille d'un ouvrier dans les forges des usines Renault, qui travaillait dans les usines Renault dans les années 60. Et c'est une chercheuse en histoire. Elle est allée consulter toutes les revues qui étaient éditées au sein de la régie Renault dans ces années-là et qui sont conservées à la Bibliothèque nationale. Et elle a trouvé toutes les conditions de travail décrites et notamment ce qui concerne l'aménagement des vestiaires et des douches et sur les cadences de travail. Et il y a des choses absolument passionnantes sur la fabrication des pièces, le fait qu'on accélérait les cadences et que peu après, on s'apercevait qu'on avait trop produit. Donc, on était obligé de mettre les ouvriers en chômage technique parce qu'on avait accéléré les cadences et en même temps, on avait trop de pièces en attente. Et donc, on les mettait ensuite au chômage technique. Alors, vous imaginez Bon, alors ça n'existe moins parce que maintenant, comme le dit d'ailleurs la déléguée CGT dans cette affaire, les entreprises sont à flux tendu, ce qui permet aux salariés de bloquer plus facilement l'usine et que les grèves soient efficaces. Voilà, j'arrête parce que j'aperçois que j'ai dépassé mon temps de travail. Je voulais mon temps de travail, regardez ce que j'ai dit. Le beau lapsus.
Vous venez d'écouter Marie-France Mazard dans le cadre de la deuxième rencontre droit et cinéma regard croisé organisée à La Rochelle les 28 et 29 juin 2009. Vous pouvez également écouter les deux autres retransmissions sur ce colloque avec les interventions de Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques débattre sur le contrat du tueur, un contrat comme les autres, et Françoise Thibault, professeur émérite de droit public à l'Université de Poitiers et correspondant de l'Institut sur le cinéma italien. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.